Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour Cinérama, émission du mercredi 25 janvier. Une émission avec un contenu assez dense, effectivement. Bonjour Marine et bonjour Manu.
Bonjour.
Voilà, Manu qu'on a déjà reçu, c'était en 2011 déjà, hein, pour l'absurde séance, et qu'on reçoit à nouveau pour une absurde séance qui concerne...
Le film De la morte et de la mort, et l'absurde séance se tiendra donc demain, jeudi 26.
Et puis Manu, bien, tu auras l'occasion de jouer avec nous au Blind Test spécial George Clooney à l'occasion de la sortie aujourd'hui de The Descendants, un film où il joue en short et en basket, voilà, et même en tongs, voilà. Et puis sinon, moi je vous parlerai aussi eh bien, du festival La Rembobine qui se déroule à Clermont-l'Hérault, qui va débuter cette semaine, même aujourd'hui. Et toi Marine, de quoi tu vas nous parler ?
Je chroniquerai Millennium de David Fincher, puis L'Oiseau de Yves Caumont, et ce sera suivi d'une interview du réalisateur.
Et on avait annoncé sur le site internet de Divergence une interview de Rabah Ammersheimer, mais voilà, comme le contenu aujourd'hui est dense, le film sort aujourd'hui, mais il sera encore dans les salles la semaine prochaine, donc on attendra. D'autant que lors de l'interview, Rabah Ammersheimer s'est montré... très désinvolte, donc je me dis je fais pas plus d'efforts que lui. Voilà, on diffusera l'interview la semaine prochaine.
Cinérama sur Divergence FM.
Voilà un film qui tombe bien en pleine affaire Mega Upload du nom de cet hébergeur de fichiers qui s'est rendu coupable aux yeux de la justice américaine de piratage sur l'internet. On doit bien comprendre que le diable était parmi nous. Voilà donc que sort Trust, deuxième film de David Schwimmer, l'ancien de la série Friends. Un film qui prend pour sujet les errances des jeunes filles sur les chats internet aux prises avec les mythomanes et pervers de tout poil. Un sujet grave car il s'agit là de pédophilie quand l'homme qui drague sur internet en se faisant passer pour un jeune tombeur à 35 ans et la fille en question vient d'en avoir 14 quand elle n'en a pas 12. Il y a de sales affaires qu'on peut sans doute trouver en long, en large et en travers sur internet justement.
Bonjour.
Ah, bonjour.
C'est la charmante petite Anna. Tu en as un joli lapin? Viens, je vais t'en montrer un vrai.
Ne laissez pas le danger entrer chez vous. Protégez vos enfants. Activez le contrôle parental sur Internet.
Alors évidemment, ça, c'est pas tiré du film Trust. C'était une campagne contre les méfaits d'Internet. Donc, le phénomène existe, des jeunes filles, de jeunes garçons tombent dans le piège patiemment mis en œuvre par ce qu'on nomme des pervers ou des prédateurs sexuels. Ils ne sont pas forcément binoclars, sans un cheveu sur le caillou, la quarantaine bien tassée et solitaire. D'ailleurs, comme on pouvait le voir dans la petite campagne là, que vous venez d'écouter, non, ce serait bien trop simple s'ils étaient comme ça. Et l'histoire qui est racontée dans Trust paraît donc au premier abord énorme. Comment une jeune fille, belle, dans une famille plutôt joyeuse, peut tomber dans les griffes d'un type qui a le double de son âge. Mais le film avance patiemment, nous montre le réconfort, la compréhension et puis l'excitation qu'Annie peut trouver dans cette chatte inlassable avec ce même pseudo qui lui parle de Californie quand elle est à Chicago. Que ce pseudo presque idéal soit un leurre, elle ne peut le penser car la technique de son interlocuteur est malheureusement redoutable. La jeune fille est victime d'un pervers qui maquille ses pulsions en histoire d'amour pour mieux adoucir sa victime et abuser d'elle. Annie, une fois que les autres apprennent que ce qui s'est passé dans une glauque chambre d'hôtel, eh bien, s'aperçoit que son histoire d'amour est un peu contrariée, devient une agression sexuelle. Le mot est lâché et Annie refuse de l'entendre. Et une autre histoire commence avec aussi, on s'en doute, l'incompréhension pour les parents, bien calfeutrés dans leur maison, surveillés par une alarme. Des parents qui étaient loin de penser que la tragédie familiale naîtrait à partir d'un ordinateur.
Bon anniversaire!
C'est le nouveau MacBook Pro.
Elles sont pour un fabricant de vêtements, c'est ça? Alors pourquoi personne ne porte de haut? Tu parles avec qui?
Je chatte, papa. Avec mon ami Charlie de Californie. Il est lycéen et joue dans l'équipe de volleyball de son école. Il est intelligent et hyper marrant. Il est encourageant. Il est gentil. Et il me trouve magnifique. Salut Charlie. Tu es où? Je suis assise sur le banc à côté de l'escalator.
Annie?
J'arrête pas d'y penser. Je suis en colère parce que j'ai rien vu venir.
Will? T'es sûr que ça va?
Peut-être qu'il m'aime pas.
Tu as été agressée.
Ça s'est pas passé comme ça, tais-toi, tu te connais même pas!
Elle a mal, elle a besoin de toi.
Je veux que ce type sorte de ma maison. Je veux que tu aies...
Ma vie est foutue. Et plus rien ne sera jamais pareil.
On peut tous souffrir. La seule chose qu'on peut faire, c'est être présent pour ramasser les morceaux quand l'être aimé va mal.
Le film est très linéaire. David Schwimmer nous laisse entrevoir la rencontre sur le net, la teneur des dialogues, le rapport que les parents peuvent avoir avec cette relation qu'ils jugent inoffensive. Il nous laisse mal à l'aise avec la rencontre réelle, puis la dernière moitié du film explore le désastre familial, la culpabilité des parents, le rôle qu'ils doivent tenir, la tentation de la vengeance pour le père qui ne supporte pas cette histoire. Tout cela est bien mené, tout en retenue. On s'attache principalement aux errements du père qui, ironie, travaille dans une agence de publicité qui fait son beurre des images où la nudité est un atout de vente, où le désir est un produit d'appel. Clive Owen est très bon en père attentif, même s'il est accaparé par son travail, en père obsédé ensuite par la vengeance jusqu'à en perdre la confiance de sa fille. Il y a bien sûr une dimension morale dans Trust, l'idée que nous sommes tous responsables de nos actes et que cette ère du tout image, de la communication à outrance et par tous les moyens finit par nous faire perdre nos repères. Il n'empêche que, voilà, dans cette linéarité, le film se laisse absolument voir et est rondement bien mené par David Schwimmer. Donc, moi, je ne le connaissais pas parce que je n'ai pas vu la série Friends.
Pour moi non plus. Quelle idée.
Et Manu, non. Ok. Voilà, bon, ça reste un réalisateur à suivre pour le coup, puisqu'il a bien mené son histoire. Et puis, Clive Owen, moi, c'est un acteur que j'adore, donc de toute façon. Je serais bien incapable de dire du mal de cet homme. Trust est en version originale, sous-titrée au Gaumont Comédie et puis aussi au Diagonale.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
On va maintenant davantage parler de pulsions sexuelles nécrophiles avec la nouvelle séance de l'absurde séance qui aura lieu demain à l'Utopia. Et vous allez projeter « De la morte et de la mort » de Michele Soavi, un film de 93 dans lequel Rupert Everett interprète Francesco de la Mort, un personnage qui a le job un petit peu spécial de gardien de cimetière.
Je vous demande pardon d'avoir été aussi grossier avant-hier. Je m'appelle Francesco de la Morte. C'est le seul travail que j'ai trouvé. Et pourtant, j'ai un doc de biologie. De toute façon, on se retrouve tous ici, tôt ou tard. J'ai un très joli pied-à-terre. Vous voulez le voir? Je ne vis pas tout seul, j'ai un assistant, Nagui. Il a un sens aigu de la répartie. Le cimetière est petit, mais il y a un ossuaire de toute beauté.
Donc dans ce film, on vient d'entendre Rupert Everett, qui est entouré d'un casting assez improbable.
Rupert Everett et François Gilazzaro, le chanteur des Garçons Bouchers, c'est assez curieux. Alors, pour juste parler de Rupert Everett, il faut savoir qu'il est l'inspiration à la base de la bande dessinée dont est tiré le film, qui s'appelait donc Dylan Dog. C'est une BD de Tiziano Sclavi, une BD culte en Italie. Et le personnage principal, donc François de la Mort en français, mais c'est Francesco de la Morte, a les traits de Rupert Everett. Donc Soavi a pu avoir Rupert Everett parce qu'il n'était pas bancable à l'époque. Il n'avait pas encore fait... ce film avec Julia Roberts, je crois que c'était
le mariage
de mon meilleur ami, qui l'a remis un peu en selle. Mais c'est en 94, quand Soavi dirige le film, il était un peu au bas de l'échelle, donc il l'a eu pour pas très cher.
D'accord, et donc dans ce film, il est gardien de cimetière, mais la particularité de ce cimetière, c'est que les morts se réveillent au bout de sept jours. Et du coup, son travail devient un petit peu plus compliqué. Ben...
Allô ?
Salutations de la mairie.
Franco, comment vas-tu ?
Je m'ennuie, je te dérange ?
Non, tu me déranges jamais.
Je voulais te raconter des petits potins de la mairie. Le maire et ses sbires.
Nagui, la porte !
Qu'est-ce que tu en dis ? C'était quoi ça ?
Oh, ça c'était rien, je travaille.
Qu'est-ce que tu fais ?
Tu sais, la routine quoi. Rien que la routine.
Mais qu'est-ce que dis-tu ? Quelquefois j'ai envie de me flinguer.
Comment ça va chez toi ? Comment vont Mara et la petite Cynthia ? Hein ? Et tu sais, parfois je me demande si tu existes vraiment. Il y a une femme et une fille, non ? Ah, si je te pose la question, dis-le. Quelquefois je me demande si je t'ai pas inventé.
Oui, donc une petite ambiance musicale assez représentative des années 90 durant lesquelles ce film a été fait. Donc là, dans cette scène, Rupert Everett est tranquillement chez lui et puis bah, les morts entrent dans sa maison, donc il doit les flinguer un par un.
Oui, là, ça c'est le début en fait, pour nous montrer bien l'ambiance du film. Donc il a une forme de train-train, un train-train habituel, ce qui doit tuer les morts au bout de 7 jours. En fait, c'est jusqu'au jour où il rencontre en fait, une jeune veuve à la beauté renversante et qui va du coup faire basculer complètement sa vie. Donc le mari de la veuve revient à la vie, il va tuer sa femme et du coup il va vouloir... il ne voudra pas du coup tuer en fait, la veuve. Il va tomber follement amoureux et du coup sa vie va complètement basculer dans un univers complètement onirique entre rêve et réalité. Voilà.
Oui, parce que ce film aussi, en dehors de l'aspect film de zombies, c'est vraiment une espèce de réinterprétation du mythe de Eros et Thanatos. Il y a énormément de liens entre l'amour et la mort, déjà justement avec cette jeune veuve dont il tombe éperdument amoureux, avec qui il a une espèce de relation plus ou moins nécrophile.
Ah oui, non, mais le film de Soavi, bon, il est assez classique au départ. Hein. Ça ressemble vraiment à un film bis, réalisé d'ailleurs à une époque où il n'y en avait quasiment plus, voire aucun. Et d'un coup, dans la deuxième partie, c'est vrai qu'il bascule dans un délire visuel et narratif assez hallucinant. Soavi prend vraiment un plaisir à manipuler le spectateur. On perd pied jusqu'à un vertigineux épilogue, où là, les rôles sont soudainement renversés entre son assistant Simplet et lui, en fait. Et je trouve que c'est un film qu'il faut vraiment redécouvrir, qui dépasse vraiment un statut de film de série B. Il y a un humour assez particulier, assez anglais, d'ailleurs. C'est assez british. Un aspect visuel qui renvoie vraiment au cinéma gothique de Mario Bava, avec ses lumières assez flash, les voiles, quand il montre des lucioles, c'est complètement faux, mais c'est très très beau.
Oui, on voit des espèces de trucs qui volent, qui sont extrêmement mal faits, mais bon,
c'est
mais
assumé.
La magie opère, on va dire, passe dans la scène.
C'est assez surréaliste, voilà. Il y a un mélange entre l'influence de Mario Bava, de Dario Argento, puisqu'il a été son assistant sur Phénomena et Ténèbres, d'aussi de la littérature. On pense à Lautréamont, à Edgar Poe. Il y a une espèce de mélange assez hétéroclite qui en font un film vraiment assez particulier. Et c'est pas vraiment du cinéma bis, c'est autre chose.
Oui, parce qu'il y a des inspirations artistiques qui sont quand même très pointues. Il y a notamment une scène dans la grotte où il embrasse la jeune blonde, qui est en fait une représentation d'un tableau de Magritte, entre autres. Et il y a comme ça plein d'inspirations très pointues qui sont dispersées dans le film, que tout le monde ne pourra pas forcément reconnaître.
Oui, mais je pense que de toute façon, Soavi est quelqu'un de très cultivé. C'est quelqu'un, il a été l'assistant de Terry Gilliam sur Les aventures du baron Munchausen et sur Les frères Grimm. Il a réalisé un superbe premier film qui s'appelait Bloody Bird, un exercice de style, un slasher ou un giallo, plus slasher que giallo. Et c'est quelqu'un qui travaille en fait l'aspect plastique, c'est vraiment ce qui l'intéresse. Et c'est à mon avis un cinéaste très sous-estimé. D'ailleurs, depuis, il est sorti complètement du genre. Il a fait un film qui s'appelait Arrivederci Ciao Amore, qui est un polar sombre sur le parcours d'un anti-héros.
Oui, qui est sorti il n'y a pas très longtemps.
Il est sorti il y a 5 ans en salle. Mm-hmm. Hein. Mais comme De la mort et de la morée, hein. Il est sorti en salle en France. Hein. Je l'ai vu au Royal à l'époque.
Et ça a eu 95. Du succès à l'époque
Non, pas vraiment, pas vraiment. Je sais qu'il avait reçu le grand prix, le prix du public à Gérard Maire. D'accord. Quand il est sorti. Et non, c'est pas... C'est un film qui sort à une époque où on ne voit plus ce type de film. Le fantastique n'était pas du tout à la mode déjà dans les années 90. Enfin, à part des films comme Jurassic Park. Mais... Mm.
Et donc, tout l'intérêt donc, de le retrouver dans l'absurde séance. Et pour le coup, est-ce que vous avez prévu des surprises? Enfin, des surprises, des fausses surprises, si vous les annoncez ici. Mais...
y aura un quiz, hein, de toute façon, où je vais faire... On va faire gagner, donc, avec toujours en collaboration avec La Vie Culturelle de Montpellier, on va faire gagner une série de DVD. Voilà. Donc, je ne vais pas dire les films, mais il y aura un Suavi. Mm-hmm. Et puis des giallo italiens, voilà, en gros.
Oh, je vous en prie, non! Il me mange, il fait rien de mal!
Pousse-toi de là.
Mêlez-vous de vos affaires, je me fais manger par qui il me plaît!
C'est mon affaire, c'est pour ça qu'on me paye.
Voilà, donc De la mort et de la mort, c'est demain dans l'absurde séance à l'Utopia à 20h30.
20h30, oui. Alors juste, ils ont fait une erreur dans le magazine Utopia, parce qu'ils l'ont annoncé vendredi 26.
Ah. Oui, non, c'est demain.
C'est demain, voilà.
Demain, jeudi 26.
C'était important de rectifier. Et le tarif, je me souviens plus, c'est un tarif normal d'une séance? C'est, non, c'est un poil plus ou...
Non, c'est pareil, c'est le tarif d'une séance, je crois que c'est 6 euros, voilà. Mm. Voilà, c'est pareil.
Et on t'avait reçu pour Les Dents de la Mer, alors comment a été accueilli le film finalement? La projection s'est bien passée?
Alors très bien, bon, c'était la veille des vacances, donc il y avait un peu moins de monde que pour la première des Clowns Tueurs, où là, la salle était, on a dû refuser une cinquantaine de personnes. Mais non, la copie était magnifique d'ailleurs, et de le voir en 35 mm, c'était quand même quelque chose. Et le film a très... C'est vraiment un film fait pour le cinéma. Mmh. Donc il a été très très bien reçu.
Donc on le répète, De la morte, De la mort. Donc absurde séance demain au cinéma Utopia à 20h, c'est ça hein?
20h30.
20h30.
Mais oui. Venez à 20h.
Mais venez à 20h, oui, absolument.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie?
Sur Divergence FM.
C'est aujourd'hui que sort le dernier film avec George Clooney, mais on doit tout de suite mettre en garde les éventuelles admiratrices de l'acteur. Il ne sera pas séducteur, n'aura pas la mèche impeccable ou le smoking qui va bien. Non, c'est un clownet en chemise estivale bariolée et en short qui lui fait des grosses fesses que l'on verra notre vendeur de café préféré pendant tout le film, puisque The Descendants se déroule sur l'archipel d'Hawaï.
Mes amis s'imaginent que parce que j'habite Hawaï, je vis au paradis. Comme si on passait notre temps à siroter des cocktails et à surfer. Je ne suis pas monté sur une planche depuis, je ne sais pas, 15 ans. Il y a 23 jours, ma femme a été éjectée de hors-bord et sa tête a subi un choc. Et comme si tout ça ne suffisait pas...
Tu ne peux peut-être pas l'entendre pour l'instant, mais... Elle était très seule.
Qui est-ce? Je voudrais savoir qui est l'homme avec qui ma femme sortait. J'ai toujours été le parent de remplacement. Et avec Elisabeth à l'hôpital, mes filles me testent.
Papa, je te présente Sid. Je serai plus aimable s'il est là.
Ça va ou quoi?
Ne recommence jamais ça. Vous m'avez toujours pas dit qui c'est.
Laisse tomber, papa. T'as mieux à faire que d'aller te confronter à ce mec.
Qu'est-ce que tu ferais si t'étais moi?
Je lui poserais les couilles sur le buffet et je lui foutrais un bon coup de batte.
Mes amis s'imaginent que parce que j'habite Hawaï, je vis au paradis. Qu'est-ce qu'ils croient? Nos familles ne sont pas moins névrosées et nos peines ne sont pas moins douloureuses. On doit traverser tout ça ensemble, toi, Scotty et moi.
Eh bien non, Hawaï, ce n'est pas seulement le surf, le soleil et l'insouciance, pour preuve ce long métrage d'Alexander Payne, déjà auteur de Sideways, qui dans un décor exubérant nous dépose un drame, une mère et épouse vivant dans un coma sans fin, un père et mari qui doit vite redécouvrir qu'il a des enfants et qu'il a été trompé. Car oui, notre clownet en short s'est plongé dans son boulot d'avocat sans se soucier davantage de sa progéniture, et pas moins, semble-t-il, de sa femme. Alors évidemment, The Descendants est un film sur le deuil, mais pas le film sombre que l'on attendrait sur un pareil sujet. Et là, Hawaï et sa carte postale n'y est pour rien, car il y pleut parfois, on ne voit pas de surfeur, et si le film est baigné par la lumière, elle semble comme tamisée. Si le film échappe au pathos, c'est d'abord grâce aux deux filles du couple, que ce soit la cadette ou l'aînée, elles donnent chacune à leur manière du fil à retordre à un père dont on devine qu'il n'a pas souvent été là pour écouter les confidences de sa progéniture, que le temps a filé sans qu'il s'en rende vraiment compte. Alors la plus jeune semble passer par une crise identitaire quand l'autre est en pleine adolescence et fixe le prix à payer pour la paix familiale. Et puis il y a aussi, pour détendre l'atmosphère, les seconds rôles. Un beau père plein d'aigreur qui juge son gendre à tout va jusqu'à la vexation, une belle-mère Alzheimer, le copain de la fille aînée tout plein de muscles et apparemment décérébré, puis les cousins. Car oui, pour mieux nous faire traverser le deuil, l'histoire nous met aux prises avec une opération immobilière assez compliquée qui concerne directement le personnage incarné par Clooney, une terre dont il est le propriétaire avec ses cousins, légués par sa famille et qui attire la convoitise. Alors doit-il vendre à qui? Mais finalement, pourquoi vendrait-il ce bout de terre qu'il n'a obtenu que par descendance sans la valeur travail? C'est juste un coin de nature d'une île volcanique annexée par les États-Unis. La descendance travaille le personnage de Clooney, qu'on va finir par appeler Matt King, puisque c'est son nom dans le film. Un King qui, en plus de la mort imminente de son épouse, apprend qu'elle a eu une histoire, alors une aventure, du sexe, l'aimait-il, et puis avec qui ? Matt King, en plus de redécouvrir sa paternité et d'être bien embarrassé avec ça, devra ravaler sa fierté, tenter de démêler qui était la femme avec qui il a fondé sa famille pour mieux la quitter et débrancher les appareils qui la maintiennent en vie, car tel était son souhait. The Descendants est traversé par la lumière d'un lieu, au premier abord paradisiaque, mais qui cache des tensions, par la mélancolie évidemment, mais aussi par des pointes d'humour. Clooney incarne parfaitement cet anti-héros en tongs, short et chemise, nous fait oublier qu'il est l'icône d'une multinationale vendant ses dosettes à vil prix. Et puis la BO de The Descendants est entièrement faite de ukulélé. Alors si vous êtes allergique à la musique hawaïenne, n'y allez pas, et si au contraire vous aimez être bercé par une histoire pas bête du tout, avec ce qu'il faut de drame, de doute et de légèreté, vous pouvez aller voir The Descendants, qui est en version originale sous-titrée au Gaumont Comedy, et puis en version française au Gaumont Multiplex, et puis également au CGR. Comme c'est un film avec George Clooney, nous allons maintenant lancer le blind test George Clooney. Voilà. Donc, visiblement, vous avez révisé, vous avez fait travailler votre mémoire juste avant l'émission. On commence tout de suite.
Coupez, ça suffit, coupez, économisons la pellicule. Les femmes et les enfants à la mer. Non, désolé, mes amis, mais on dirait que nous n'avons plus de pognon pour terminer le film. Oh. Eh oui, si on ne trouve pas rapidement du blé, ce film ne sera jamais projeté, je suis désolé.
Une minute, j'ai refusé de jouer un pilote de série pour être ici. Il doit bien y avoir une solution.
Eh ben, c'est pas à moi qu'il faut le dire, mais au génial producteur qui est sûrement à Tahiti maintenant.
Mais on pourrait pas... trouver le pognon ou rogner un peu le budget?
Comment rogner le budget? Rogner le budget? Mais où t'étais pendant ces deux semaines de tournage? Je dois faire jouer à 5 acteurs, 10 personnages, sans parler de 3 que je dois jouer moi-même, ça te va? Ah, et t'as pas vu les effets spéciaux? Mais montre-lui un peu les effets spéciaux.
Non, ça va.
Tiens-moi ça. Un instant, mesdames et messieurs. Nous semblons l'oublier, mais ce sont les années 90. Il est temps de penser au bon placement. Donne-moi cette bière. Ceci... au générique, vous savez ce que c'est qu'un générique. Ça ne va pas le défigurer. Alors, je dis qu'un bon placement, ça marche toujours. Tu devrais me faire confiance.
Eh, ça c'est génial. Faire pour nom des marques connues.
Ouais. Des produits de sponsoring.
Très bien. Écoutez, la confiance ne paie pas le syndicat des acteurs, mais j'ai plus le choix maintenant. Alors, silence. Les copains, ok. Nous allons terminer ce film. On va repartir de l'avant et voir ce qu'on peut faire avec de bons sponsors.
Voilà, donc c'est le dernier qui parle, c'est celui qui parle du placement produit, puisque c'est une version française, forcément, c'est pas la voix de Clooney. Alors c'est...
Le retour ou l'attaque des tomates tueuses ?
Le retour.
C'est le retour des tomates tueuses, donc film de John...
De Bello,
oui, que tu dois bien connaître, j'imagine. Donc film de 88, alors il n'était pas dans le premier, l'attaque des tomates tueuses,
qui était réalisé 10 ans avant, d'ailleurs, en 78.
Voilà. Donc c'était un jeune Clooney qui n'aurait peut-être pas joué dedans. Voilà, donc c'était le premier extrait, c'est un peu comme ça qu'a commencé la carrière de Clooney.
Oui, vos intentions sont louables, mais sans fioul pour se chauffer, sans conservateur pour protéger les aliments, des millions de pauvres gens mourraient de froid et de faim, sans parler du reste.
Ce serait bien peu de choses dans cette bataille pour sauver la planète.
Les humains d'abord, Dr. Isley.
Ah bah il a plus la même voix, donc forcément, déjà... Alors ça...
Je ne sais pas.
C'est une sorte de franchise, hein. Batman et Robin.
Batman et Robin.
Eh oui. Donc, eh oui, en 97, avec Arnold Schwarzenegger qui interprète Mr. Freeze, et puis Uma Thurman.
Je ne voudrais pas que tu te trompes. Je ne suis pas qu'une nana qui cherchait à se faire sauter, si c'est ce que tu crois.
Pourquoi t'es en colère?
Je ne cherchais pas non plus une aventure tordue avec un braqueur, comme, je sais pas, les filles qui aiment bien ça. C'est pas moi.
Je pourrais dire aussi que j'ai baisé une femme flic. Tu penses que je vais le dire?
J'en sais rien.
Viens ici. Je connais un gars. Il se pointe dans une banque avec une bouteille. Il dit à tout le monde que c'est de la nitroglycérine. Il braque le caissier. Et en repartant, il laisse tomber la bouteille qui se casse. Il se fout la gueule par terre, il s'assomme et la police l'arrête. La nitro, en fait, c'était de l'huile de paraffine. Dans le métier, je connais plus d'amateurs que de mecs qui savent vraiment ce qu'ils font. Il n'y en a pas un sur 10 qui sait reconnaître un billet piégé. La plupart des braqueurs de banque, c'est pas franchement des génies. Tu te payes une aventure tordue, comme tu dis, avec un petit truand. Du coup, t'es à mettre dans le même sac qu'eux, alors. T'es loin d'être conne, pourtant. Pourquoi tu crois ça? T'es dingue? Pourquoi tu crois, Karen, que je pense ça de toi, hein?
T'es loin d'être con.
Je ne m'avancerai pas trop là-dessus. Tu sais, quand tu plonges trois fois, tu as du mal à ne pas te prendre pour une bille.
Alors, ça a été trouvé dans le studio.
Hors d'atteinte.
Voilà.
Soderbergh.
Oui.
Jennifer Lopez.
Oui, absolument. Film de 1998, sans doute pas le meilleur Soderbergh. Mais, me semble-t-il, c'était la première collaboration entre Clooney et Soderbergh. Oui. Puisqu'après... Et ils sont devenus des amis, ils ont produit ensemble tout un tas de films. Enfin, voilà. Ils forment une paire, quasiment. Allez, un autre, 2 ans après.
Papa !
Coucou, ma chérie ! Ça va, ma grande ? Bonjour. Qui c'est, ça ?
Starla Warvey.
Starla McGill, tu veux dire ? Et tu ne m'en as jamais parlé ?
Parce que t'as été écrasée par un train.
Ah oui, il y a ça aussi. Pourquoi as-tu été leur raconter que j'étais passée sous un train ?
Il y a des gens parfaitement respectables qui passent sous des trains. Le juge Obi à Cookville est passé sous un train. Qu'est-ce que j'aurais pu leur dire à la place ? Que t'avais été expédiée dans une ferme pénitentiaire et que j'avais divorcé de honte ?
Je te comprends, mais ça me met dans une drôle de position vis-à-vis de ma progéniture.
Penny ? Est-ce que cet homme t'importune ?
Waldrip ?
Lui-même ?
Ah. Vous vous servez de ma gomina.
De votre gomina?
Excusez-moi. J'ai du nouveau pour toi, au cas où tu n'aurais pas remarqué. Je n'ai pas été écrasé par un train. Et je viens de faire un voyage épuisant pour retrouver ma femme et mes 6 filles.
C'est papa! Non, chérie, ce n'est pas lui. Ton père est passé sous un train.
Penny, s'il te plaît!
Écoute-moi. Vernon a un emploi. Vernon a des perspectives, c'est un homme de valeur. Et toi, qui es-tu ?
J'allais y venir, justement. C'est moi le pater familias, et tu ne l'épouseras pas.
Alors là, détrompe-toi. C'est pour demain. Quelqu'un doit penser au petit Warvez. Elles se tournent vers moi et elles attendent des réponses. Vernon peut leur payer des leçons de clarinette. Toi, tout ce que tu as fait de mieux pour elles, c'est de passer sous un train.
Espèce de menteuse, traîtresse, succube.
Et là. Je vous interdis d'insulter ma fiancée.
Ah oui?
Bon, long extrait, hein, mais c'est une longue séquence, moi, que je trouve assez savoureuse.
Succube, ça, c'est de l'insulte.
Ouais. Bon, après, tu peux pas le dire à n'importe qui, parce qu'il faut quand même que ce soit compris. voilà. et donc, ça a été trouvé par Manu.
Oui, au Brother, donc, des frères Cohen.
Des frères Cohen, avec John Turturro et le troisième, je sais plus qui c'était.
Goodman, John Goodman.
Ah, il y avait Goodman aussi, oui. Mais il fait pas partie des évadés, lui.
Non.
Ouais. Et là, sa femme était jouée par une des compagnes des frères Cohen.
Frances McDormand, qui est d'ailleurs la femme de Joel Cohen.
Alors, Joel ou Joel, ok. Dernier extrait, cette fois-ci. Encore un film.
Qu'est-ce que vous auriez souhaité faire, à part prêtre ?
Auriez-vous souhaité faire un travail différent de celui de photographe ?
Je fais ce que je sais faire.
Vous avez des cales comme quelqu'un qui travaille de ses mains. Vous avez des mains d'artisan. Et les machines, c'est votre fort. Contrairement à ce que vous m'avez dit la première fois qu'on s'est parlé. Le journalisme, ça rend pas les gens riches à millions. Mais vous étiez peut-être déjà riche. Les personnes les plus riches sont celles qui font entrer le Seigneur dans leur cœur.
Je doute que le Tout-Puissant s'intéresse à moi, mon père.
Voilà, c'est encore une autre voix hein, pour Georges Clouzet, pas parce que ouais, ça c'est les VF, parfois c'est québécois, enfin on fait ce qu'on peut. Donc ça a été trouvé, encore une fois, par Manu.
Donc c'est The American d'Anton Corbin.
Film qui est sorti, je crois, l'an dernier.
Ouais, il y a deux ans, ou l'an dernier, ou il y a deux ans.
Voilà, un film de genre, une espèce de faux thriller, hein, avec un faux rythme, avec une séquence d'ouverture, moi, qui m'a plutôt fasciné, une séquence de fermeture qui m'a aussi fasciné. Et puis, on voit un George Clooney qui est toujours en tension dans ce film. Alors ça, moi, ça m'a impressionné. Ça n'a rien à voir justement avec les tongs et le short. Là, pour le coup, donc la réflexion que lui fait le père dans un petit village italien, c'est que voilà, il se fait passer pour un photographe, alors que c'est un type qui prépare des armes pour les tueurs professionnels. Voilà, il est poursuivi, alors on ne sait pas par qui, vraiment, sans doute par un de ses anciens employeurs, et voilà. Et puis il découvre l'amour dans ce petit village italien. Alors toi, t'as pas trop aimé
Non, pas trop. Je trouvais assez glacial. Mais c'est un
très glacial.
C'est un film intéressant. Hein. D'ailleurs, je trouve l'idée de se situer d'ailleurs dans un village un peu italien comme ça, un peu paradisiaque.
Alors que ça commence dans le Grand Nord. Hein. Enfin,
ça commence dans le Grand
là
Nord.
Là aussi, il y avait quelque chose d'assez fort, je trouvais.
Et le réalisateur d'ailleurs, Anton Corbin, avait fait un très bon film sur Joy Division.
Sur Joy Division, oui.
Et je me rappelle Control. Voilà,
Control. Absolument. Voilà, ainsi s'achève ce blind test. J'espère que chez vous, vous avez joué avec nous. Il n'y avait absolument rien à gagner en revanche.
Cinérama sur Divergence FM.
Dans la suite de l'émission, on va retrouver une interview de
Yves Caumont,
voilà, pour le film L'Oiseau. On va aussi retrouver une interview du directeur du festival La Rembobine à Clermont-Lérault. Et puis, dans quelques instants, eh bien, tu vas nous parler de Millennium.
Yeah.
Voilà, c'était non pas la bande-annonce, mais un extrait du générique de Millennium, L'homme qui n'aimait pas les femmes, de David Fincher. Un générique digne d'un James Bond, long de 4 minutes, et tout en effet visuel torturé. Alors en parlant de James Bond, c'est justement Daniel Craig, l'actuel 007, qui prête ici ses traits au journaliste Michael Blomqvist, le héros de la trilogie littéraire Millennium, adaptée cette année donc par David Fincher. Alors 2 ans à peine après la première adaptation suédoise, cela valait-il la peine de se remettre à la tâche ? Disons-le tout de suite, la réponse est non. Si vous avez aimé la série de livres éponymes ou bien si les histoires de meurtres, d'inceste et de nazis vous passionnent, il vous suffira de voir l'une ou l'autre version car la seconde n'apporte rien de nouveau. David Fincher réalise une adaptation fidèle et n'a rien perdu de son efficacité à raconter des enquêtes tortueuses depuis Seven ou Zodiac, mais la Suède semble bien fausse lorsqu'elle est filmée et habitée par des Américains. Le rôle de Lisbeth Salander, qui est probablement l'un des personnages de fiction les plus marquants de ces dernières années, avait déjà été interprété au mieux par l'actrice Noomi Rapace, laissant ici peu de chance à Rooney Mara, sa nouvelle interprète, de lui apporter quoi que ce soit de nouveau. Son personnage de hackeuse rebelle et asociale avait atteint une parfaite androgynie dans la version suédoise, mais se voit transformée par Fincher en Nikita nouvelle génération, personnification exacerbée du combat contre la misogynie, rendue potentiellement fantasmatique et donc bien moins intéressante. Michael Blomqvist va rencontrer Lisbeth au cours d'investigations concernant une riche famille d'industriels au passé douteux, tandis qu'elle-même tentera de se défaire de ses souvenirs traumatisants et de son tuteur mal intentionné. La relation des deux protagonistes prend plus d'ampleur dans cette version, au point de clôturer le film sur une note de romantisme déçu, ce qui n'était pas indispensable au vu de l'ambiance sordide qui est justement l'atout principal de Millennium. Quant aux scènes choc du premier opus, elles s'avèrent plutôt en deçà lorsqu'elles sont tournées par Fincher, à croire que n'importe quel réalisateur suédois peut faire aussi bien que le metteur en scène de Fight Club. Même la scène de viol, supposée être le sommet de perversité du film, a paru moins insoutenable que le spot de pub pour TF1 que nous a diffusé Le Gaumont avant la séance. En revanche, rien à dire sur la longueur du film. Fincher souhaitait sortir des standards hollywoodiens et il réussit un film qui nous captive malgré ses 2h40, qui a simplement finalement le défaut d'avoir déjà été fait avant.
Et il avait déjà été fait d'ailleurs à peu près dans la même durée, hein, dans mes souvenirs, c'était 2h15 ou quelque chose comme ça. Donc effectivement, Fincher est allé moins loin, alors, mais c'est peut-être production américaine qui fait ça finalement, hein, dans la scène de viol qui était pour le coup assez insoutenable dans la version suédoise.
Hein. Oui, là ça c'est légèrement plus consensuel globalement, quoi, tout le film.
Donc, on sent pas vraiment la David Fincher touch.
Bah non, à part quelques plans qui sont assez bien trouvés et assez surprenants, à part ça, non, il y a vraiment pas grand-chose.
Bon, j'ai l'impression
ça reste un bon film, un bon divertissement. Voilà, juste dommage que ça ait été fait il y a 2 ans aussi bien.
Bon, j'ai l'impression qu'on va changer de standard là maintenant.
Cinérama sur Divergence FM.
On passe maintenant à un film français, À l'oiseau, de Yves Caumont.
Ma belle au bois dormant, tu dormiras longtemps.
Ma belle au bois dormant, tu dormiras longtemps avant que je ne vienne. Je demande partout, le grand amour c'est où? Où est-elle ma reine?
Attendez, mais vous pouvez pas vivre comme ça. On peut pas vivre comme ça. En disant toujours non à tout, c'est pas possible, c'est pas humain.
Tu me demandes pas de nourrir?
Non, mais je suis sûre que ça va. Allez.
Bon ben, vous me reverrez plus. Faut en être sûr.
Thank you. de l'action, hein, ça castagne sévère dans cette bande-annonce. Donc voilà, une bande-annonce énigmatique pour un film qui l'est tout autant, dans L'Oiseau, donc de Yves Caumont. Sandrine Kiberlain interprète le rôle de Anne, une jeune femme qui va voir son existence monotone, bouleversée par des bruits étranges dans son appartement. Excédée, elle finit par abattre un pan du mur d'où émanent les bruits pour découvrir un oiseau enfermé à l'intérieur. Cette découverte va alors lui permettre de faire ressurgir un autre secret enfoui, celui de la mort de son fils, qui l'a fait plonger dans cette solitude maladive. Yves Caumont réalise ici un film sur les difficiles sujets du deuil et de la solitude, avec le surprenant parti pris de la sensualité. Jouant sur les matières et sur le ressenti davantage que sur les expressions, il taille un personnage complexe et fascinant à la hauteur de Sandrine Kiberlain. Sans même prendre la peine d'injecter un peu de pathos à son histoire, il filme la douleur et la renaissance là où on l'attend le moins, à travers la nature, une mèche de cheveux ou un oiseau. Autour de Anne tournent trois hommes et autant de possibilités pour elle de revivre, mais c'est grâce à cet oiseau que la jeune femme fera son retour à la vie. Si la dernière partie du film, entre onirisme et éloge de la nature, s'étire un peu en longueur, le film a la particularité d'être bien plus délicat et séduisant que le sujet ne le laisserait présager, en grande partie grâce à l'actrice qui trouve la juste mesure entre tragique et sensibilité pour évoquer sans lourdeur un drame et une renaissance. Si elle peut surprendre ou ennuyer au début, la mise en scène de Yves Caumont demeure riche et travaillée, tout en restant à distance de son personnage qui acquiert suffisamment d'épaisseur au fil du film pour nous captiver. Résultat visible d'une complicité qui porte ses fruits entre le réalisateur et sa comédienne. Le réalisateur que j'ai par ailleurs rencontré et interrogé sur ses choix et sur son travail. Donc on va tout de suite écouter l'interview de Yves Caumont.
Par rapport à la mise en scène, donc c'est un film en fait qui est centré sur un seul personnage en particulier, c'est-à-dire le personnage de Anne, joué par Sandrine Kiberlain. Et ce personnage est très solitaire. Le film a une mise en scène particulière par rapport à ce sujet, c'est-à-dire qu'il reste assez extérieur au personnage, on ne rentre pas dans son intimité. Donc il y a pas mal de scènes où il ne se passe pas grand-chose, où on cherche à comprendre ce qui se passe dans sa vie, quelle est sa personnalité, quelle est sa manière de penser. Et la caméra reste très extérieure par rapport à elle. Donc pourquoi ce choix ?
Ben, en fait, ça me semble être quasiment l'essence de la mise en scène. C'est pas parce qu'on fait un film avec des choses simples et réelles et reconnaissables et authentiques, disons, de la vie de tous les jours, que chacun peut avoir éprouvé ou expérimenté ou vu, qu'il faille tomber pour autant dans... Vous voyez, c'est pas parce que c'est gris ou que c'est morose que c'est vrai. Voilà, c'est ça mon idée. Le réalisme, c'est pas forcément la grisaille. Donc j'ai même un point de vue un peu contraire. Enfin, il me semblait justement que de filmer une fille effacée, secrète, mais néanmoins solaire, non seulement c'était plus intéressant à regarder, et ensuite que c'était plus dramatique, au sens où c'est comme si elle ne pouvait pas profiter elle-même de cette lumière qu'elle avait pourtant en elle. Et donc on se dit, mais... On a envie de lui dire, mais tu l'as, la lumière, pourquoi tu ne l'acceptes pas ? Pourquoi tu ne la suis pas ? Et en tout cas, un certain temps pendant le film, c'est comme si elle ne la comprenait pas elle-même. C'est d'ailleurs un personnage, on peut dire, pendant longtemps, il ne se comprend pas lui-même. Il le sait. Il sait qu'il ne se comprend pas. Et il aimerait se comprendre. Alors il a presque envie d'aller voir les autres et de leur dire, expliquez-moi qui je suis. Aidez-moi, enfin, un peu comme quelqu'un qui devrait même apprendre à dire bonjour, à... Et en amour, il aurait tout à apprendre, c'est-à-dire comment on embrasse, comment on parle à quelqu'un pour l'approcher. Enfin, bon, tout ça a été très, très intéressant.
Vous lui avez appris ou proposé un autre rôle que celui d'actrice principale, celui de costumière?
Ouais, entre autres. C'est-à-dire que Sandrine, elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait des films qui ne sont pas exactement... dans le même domaine que ceux que je fais, c'est-à-dire économiquement. Ils ne sortent pas dans les mêmes genres de salles, en général, hein, parce qu'elle a fait toutes sortes de choses. Et elle peut tout jouer, en plus, avec ce film, je crois qu'elle l'approuve. Avec mon film, elle prouve qu'elle peut tout jouer maintenant. Mais pour autant qu'il y en ait qui aient pu en douter. Mais elle n'est pas forcément dans la même sphère de cinéma. Et là où je faisais semblant, moi, d'être dans sa sphère à elle, habituelle, où j'assumais le fait... de la changer de monde, en fait. Et donc, c'est plutôt ce que j'ai fait, et c'est-à-dire lui dire, on sera très peu nombreux, et je n'ai pas besoin d'une... Je ne cherche pas une actrice ou une star, hein. Je cherche une coéquipière. Je cherche quelqu'un qui fasse partie de l'équipe, qui joue dans le film. Et je dois dire que non seulement ça l'a pas du tout rebuté, mais elle a adoré ça, parce que tout d'un coup, l'acteur, il fait partie d'une équipe, c'est-à-dire il a une autre responsabilité. Il n'est pas juste là pour passer devant la caméra et avoir des vapeurs le reste du temps. Il est vraiment concerné par l'artisanat qui est la fabrication d'un film, parce que c'est quand même ça. Donc en effet, Sandrine a fait les magasins de chaussures pour les chercher elle-même. Elle m'a envoyé ce qu'on appelle des MMS, là, avec des photos d'elle, de ses pieds du moins. Et parce que son idée, c'était ça. C'était qu'il, pour trouver le personnage, il fallait d'abord savoir comment elle marchait. Une fois qu'on aurait trouvé les chaussures, on pourrait remonter doucement vers le visage et comment elle est coiffée et tout ça. Et ça fait partie d'ailleurs de son humilité et de l'humilité du vrai travail d'acteur, en fait. C'est pas tellement se raconter des histoires, ou, comme on le fait souvent après quand les films sortent. « Ah, j'ai pensé à ci et ça, j'ai beaucoup travaillé. » Non, c'est pas tellement vrai, ça. Moi, je m'amuse quand je les entends parler. Je pense qu'eux-mêmes se sentent un peu ridicules, au fond. Mais c'est ça, le travail d'acteur. C'est « quelles chaussures je vais porter ?» Toulouse, c'était une séance assez forte, parce que la fille à qui est dédié le film était dans la salle. Donc, le personnage réel, et, en quelque sorte, et le personnage de fiction se sont rencontrés et ont parlé ensemble pendant une heure, à peu près, sur le trottoir, à la sortie, sous la pluie. Et je peux pas vous dire ce qu'elles se sont dit, parce que je me suis pas approché. Mais pour moi, c'était assez vertigineux, en effet. Non, mais c'est intéressant, parce que ça ne vous arrive pas souvent et ça ne m'arrivera plus. C'est comme si j'avais, si, je sais pas, c'est comme si un personnage de roman rencontrait la personne réelle qui a inspiré le roman. Je ne peux pas en dire plus, parce que je n'ai pas fini de méditer à ça, en fait. Mais c'était fort pour les deux, en fait. C'était fort pour la femme, et c'était fort pour l'actrice. Et c'était étonnant de les entendre se chuchoter, se parler, s'observer aussi, Et c'était une expérience très forte, mais je ne peux pas en dire tellement plus.
Alors, autour du personnage de Anne, il y a trois personnes, trois hommes, qui ont une importance différente dans sa vie, ou qui vont en avoir une, en tout cas. Donc, c'est trois hommes très différents, trois acteurs très différents, d'âges différents. Comment vous les avez choisis ?
Ah ben là, j'ai cherché des hommes, en fait, assez, disons, assez virils. C'est-à-dire, je ne sais pas, c'est d'abord mon goût, en fait. C'est-à-dire que les jeunes premiers, ce que j'appelle les modèles de la redoute, sans vouloir faire de publicité ou le contraire. Je ne sais pas, j'ai les gens qui ont trop bon cœur, qui sont trop jolis, trop gentils. Bon, ça peut être formidable, mais disons, moi, pour faire contrepoids, j'avais envie de gens, d'hommes un peu plus sauvages et un peu plus rudes, quoi, en fait, voilà. Peut-être pour davantage montrer, d'ailleurs, leur vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité, c'est un critère très important dans les personnages masculins, je trouve. C'est même la variable, peut-être la plus importante. Donc, ils ont l'air d'être des grosses brutes, et ce sont des grosses brutes, mais pas seulement des grosses brutes. Donc voilà, j'ai cherché un peu des types pas forcément sympathiques d'emblée, voilà, dont on ne peut pas se dire, tiens, celui-là, il a bon cœur, vous voyez. Bon, pour contraster avec elle, et aussi parce que, pour montrer sa force à elle, parce qu'au fond, elle va quand même résister à leur... sollicitude, elle va les désarmer au fond. Donc ça veut dire qu'elle a une certaine force intérieure, cette femme qui a l'air si fragile finalement. Voilà. Au fond, elle est peut-être plus forte qu'eux, et même elle est plus forte qu'eux. Donc ça, c'était ce qui était intéressant. Et puis j'ai cherché aussi ces hommes parce que je voulais des êtres qui ne lui ressemblent pas à elle. Vous voyez, qui ne jouent pas déjà dans la même fiction qu'elle, dans le même jeu qu'elle, qui ne viennent pas du même monde, comme des planètes qui viendraient d'univers différents, pour qu'il y ait l'électricité entre eux en fait.
Il y a un travail au niveau du son que l'on sent très abouti, très recherché. D'une part, le grain de sable qui arrive dans la vie de Anne, ce sont justement des bruits dans le mur qui vont l'interpeller. Et du coup, elle va finir par casser ce mur pour voir ce qu'il y a derrière. Et c'est justement à ce moment précis qui va faire tout basculer, qu'il n'y a plus de son. Il n'y a plus de bruit pendant quelques secondes. Et donc vraiment, le spectateur est surpris. On se demande pourquoi, quel est le sens de cette scène, enfin de ce morceau de scène. Et quand le son revient, c'est pour entendre un bébé qui pleure au loin. Quel est le sens vraiment de cette recherche sur le son ?
Oh, il y a plusieurs aspects. Mais disons que le premier, c'est que c'est un film où j'espère qu'on devine et qu'on dialogue avec le spectateur. Et où je sais que la signification ne va pas passer par les moyens habituels de la signification, à savoir le dialogue notamment. Et même les dialogues ne disent pas forcément la vérité du film ou des situations. Donc je sais qu'on va en passer beaucoup par la sensation.
Voilà, donc c'était Yves Comon, le réalisateur de L'Oiseau, un film avec Sandrine Kiberlin qui sort aujourd'hui et qui est projeté notamment au Diagonale.
Cinérama sur Divergence FM.
Et Cinérama va bientôt s'achever, mais on ne se quittera pas sans parler du festival La Rembobine, festival à Clermont-l'Hérault, qui se déroule du 26 jusqu'à dimanche, où on sera le 30, j'imagine, ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Le 29, merci Bruno. Et donc, on va écouter Rémi Husneau, le non moins sympathique directeur de ce festival, qui est aussi directeur de la salle de cinéma Alain René. Vous êtes le directeur du festival La Rembobine, qui se déroule à Clermont-l'Hérault du 26 au 29 janvier. Alors, vous êtes l'heureux même directeur du festival, et depuis de nombreuses années. Un festival qui repose donc essentiellement sur la relation qu'on peut faire entre le cinéma et des arts vivants. Et là, en l'occurrence, c'est la danse, la musique avec cabaret et comédie musicale.
Exactement. En fait, le festival à l'origine avait comme ambition de décliner tous les ans un art différent. On a fait l'architecture, la BD, plein de choses. Et puis bon, c'est vrai qu'on a recentré un peu la thématique autour spécialement de la musique et de la danse. Et cette année, on a deux coups de projecteur autour du cabaret et de la comédie musicale. Vaste programme.
Si on peut donner des exemples de films qui seront projetés lors de ce festival La Rembobine, ça donne quoi ?
Autour du cabaret, donc avec deux films, French Cancan, de Jean Renoir, et puis un très très beau documentaire autour du Crazy Horse, les coulisses du Crazy Horse, et puis la nouvelle scénographie qui a été mise en place par Découfflé. Mmh. Donc c'est un très beau documentaire qui nous donnera l'occasion donc de cette soirée d'inauguration. On accueillera une ancienne danseuse du Crazy Horse qui nous parlera un petit peu de son expérience, qui commentera un peu le film et qui nous fera en fin de soirée, pour clôturer terminer cette première soirée d'inauguration, qui nous fera un spectacle donc de cabaret un petit peu inspiré du Crazy Horse, enfin en tout cas ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc voilà, par exemple, une soirée totalement thématique sur le coup de projecteur autour du cabaret. Et puis le lendemain, par exemple, on a une autre soirée thématique, alors plus axée sur la danse, ou plus exactement sur la culture irlandaise, avec le film Jig, qui est également un documentaire sur la danse irlandaise, et plus précisément sur la Coupe du Monde de danse irlandaise qui a lieu tous les ans en Irlande. Et donc on accueillera la réalisatrice, Sue Bourne, et puis on aura également un concert de musique classique, de musique classique irlandaise, voilà. Ouais. Et donc voilà, en deux soirées, vous avez deux moments et deux aspects forts du festival. Et puis sur le week-end, on développe plus les autres parties, en particulier l'actualité des films avec les hommages et les avant-premières.
Il n'y en a que deux cette année ?
Oui, il n'y en a que deux pour diverses raisons. On a un petit peu réduit cette année la voilure, et entre autres les avant-premières, on n'en a gardé donc que deux, mais deux très belles. Je vous les cite brièvement. Donc c'est Hasta la Vista, un film belge, c'est une comédie belge, tout à fait dans l'esprit belge, un petit peu déjanté, un petit peu inclassable, qui raconte l'histoire de trois personnes handicapées qui vont faire une sorte de road movie afin de trouver des femmes pour assouvir leurs besoins et leur trop-plein d'émotions d'hommes. Et on termine sur notre deuxième avant-première qui clôture le festival, en fait, dimanche soir, avec le film Une bouteille à la mer, qui est un film israélien, un peu plus sérieux, mais un très beau film, très accessible, qui parle des relations israélo-palestiniennes à travers deux personnages, une jeune israélienne et un jeune palestinien. Et c'est vraiment un très beau film, très juste, très, très humain, à la fois drôle et grave. Et voilà, je trouvais que c'était un beau film pour clôturer le festival. Un sujet un peu sérieux, mais un très beau film de cinéma. Voilà nos deux avant-premières qui sont dans des styles différents, mais je pense que satisferont beaucoup, beaucoup de monde.
Voilà, c'était une interview un peu compliquée. Il fallait un peu tendre l'oreille, puisque la liaison téléphonique n'était pas forcément de bonne qualité. Je vais quand même vous parler des principaux rendez-vous, hein, puisqu'on n'a pas pu continuer d'ailleurs l'interview. Donc, il y a la soirée cabaret, il en a parlé. Donc ça, c'est demain, jeudi 26 janvier, et c'est en même temps l'inauguration officielle du festival, avec une démonstration donc de French Cancan. Il y aura le film d'inauguration, donc Crazy Horse, de Frédéric Wiesmann, il en a parlé, et puis donc Claire Vasseur, l'ancienne danseuse du Crazy Horse, qui eh bien, va faire un petit spectacle. Voilà, c'est comme ça que ça se passe là-bas, puisqu'ils aiment bien mêler cinéma et puis art vivant. Le vendredi 27, il y aura la soirée irlandaise avec le film Jig, et puis donc l'invité Suborn. Et puis à 19h, Footloose, c'est de la danse irlandaise. Et puis 23h, Foggy & Co, c'est un concert de musique irlandaise. Le samedi, c'est la journée hommage à Emmanuel Mouret, qui décidément aime bien venir bien dans la région, hein, puisqu'il était déjà présent lors du Cinémed pour présenter justement L'Art d'aimer, qui sera à nouveau projeté, puisqu'il est sorti au mois de décembre, ce film L'Art d'aimer, que moi j'avais plutôt apprécié, mais je suis un inconditionnel du cinéma d'Emmanuel Mouret, qui fait des comédies burlesques. Et là, l'avantage de L'Art d'aimer, avec des questionnements sur l'amour, sur le désir amoureux. Et l'avantage de L'Art d'aimer, c'est que cette fois-ci, et même pour une fois, Emmanuel Mouret... Il y a Gaspard Huel. Et surtout, Emmanuel Mouret ne joue pas le personnage principal. Ce qui permet aussi de voir d'autres acteurs. Et c'est plutôt bien, il joue un tout petit personnage et ça fait du bien. Et donc ce sera à 19h ensuite qu'il y aura une espèce d'interlude burlesque, Max on Stage, je ne sais pas ce que c'est. Et puis ensuite un concert à 23h. Et puis enfin le dimanche 29, c'est un hommage à Luc Moulet avec son film Terre de folie qui avait déjà été projeté, je crois que c'était l'an dernier. Martin avait fait une petite interview de Luc Moulet. Réalisateur plutôt atypique qui fait d'une espèce de faux documentaire. Enfin, on ne sait pas exactement si c'est un vrai documentaire sur sa famille et sa région ou s'il y a des choses vraies. Je pense qu'il mélange un peu tout. 12h, spectacle de claquettes quand même et comédie musicale par l'école de comédie musicale de Montpellier. À 19h30, la ronde des soupes, ça c'est un classique. C'est-à-dire qu'ils font des soupes et donc on a plein de soupes à boire lors de ce festival. Non mais c'est un festival très très détendu à Clermont-Lérault. Ça n'a rien à voir avec le Cinémed qui est plutôt, qui se veut un peu guindé. Et donc voilà. Et puis à 20h, on les aime bien ici à Divergence puisqu'on avait retransmis un de leurs concerts, c'est One Shot Bebop. Ce sera le concert de clôture, voilà, à Clermont-Lérault. Si vous voulez toutes les infos, c'est sur Internet. L'adresse du site est très compliquée. Ils ne sont pas arrangés pour faire quelque chose de simple. Donc, le mieux, c'est d'aller taper sur Google ou d'aller directement sur le site de Divergence FM dans la rubrique Cinérama où on a indiqué l'adresse donc, pour ce festival, La Rembobine.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
On va se quitter avec l'agenda. Vendredi 27 à Lunel, Pêcheur d'images et Languedoc-Roussillon Cinéma, fête la revue Bref, c'est le numéro 100. Et à 14h30, à la médiathèque intercommunale du Pays de Lunel, il y aura une projection de court-métrage. Et à 18h15, au cinéma Athénée, la projection des films Le Canard à l'Orange de Patrick Bokanowski. Donc Patrick Bokanowski qui a longtemps fait des films avec du Super 8 qui fait partie des réalisateurs de cinéma expérimental. Enfin moi ça fait longtemps que j'en ai vu donc je ne sais pas maintenant ce qu'il fait exactement, donc ce sera l'occasion à Lunel. Les Ventileuses aussi, il y aura de Silver Petit, Alex de José Alcala, et donc ce sera en présence de Silver Petit, de José Alcala et de Jacques Kermabon qui est rédacteur en chef de la revue Bref. À 7 cette fois-ci, le 27, l'association Ciné C'est Toi propose à 20h30 au cinéma Comédien la projection débat autour du film Le Havre de Aki Kaurismäki, et Aki Kaurismäki ne sera pas là. Le 27 à Agde, le cinéma Travelling propose à 20h45 la projection du film Les Tribulations d'une caissière de Pierre Rambaldi. Ce sera suivi d'un débat. Est-ce que ce sera sur les caissières? On ne sait pas. Et puis à Béziers, le 27 et 28, c'est le Ciné-Club Biterrois qui propose le 27 à 20h15 et le 28 à 16h30 au cinéma Montsigny une projection du film Entre nos mains de Mariana Otero. À 7, le 28, ce sera Sous le regard de Brassens à 18h30. C'est de Sandrine Dumaret, suivie d'une rencontre avec la réalisatrice et le producteur. Et puis le lundi 30 janvier à 20h, c'est l'ouverture de Regards sur le cinéma algérien. On essaiera d'en parler la semaine prochaine de ce festival qui se déroule chaque année dans la région. Et c'est une avant-première avec le film de Merzak Alouache avec son film Normal. Et puis on va préciser, puisqu'on y pense, que le 24 notes seconde qui suit Cinérama proposera une thématique sous l'eau. Voilà, avec des musiques, non pas qui. Enfin, voilà, des musiques qui concernent des films qui se passent sous l'eau. Ouais. Sous l'eau, oui, le Grand Bleu, Abyss, Titanic. Voilà, ce sera la surprise. Alors, il paraît que ça va être fort, puisqu'il y aura quand même Céline Dion, je crois. Hein,
incroyable. C'est
ça. Hein. Voilà, on a l'info, donc vous allez pouvoir entendre Céline Dion juste après Cinérama.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Voilà, ainsi s'achève Cinérama. Merci, Manu, de l'absurde séance donc, qui se déroule demain au cinéma Utopia, 20h30.
J'avais juste un petit détail à rajouter dans l'interview. La troisième voix que l'on a entendue, c'était la voix de Lord de Radio Capas qui m'a gentiment transmis le fichier. Voilà.
Voilà, merci à elle. À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.